Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon et Rosalie Suc. Réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. C'est aujourd'hui Christophe Châtelot qui nous accompagne. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Cette semaine, la ministre des Armées Florence Parly s'est rendue dans plusieurs pays du Sahel, le Tchad, le Burkina, le Mali. Alors que la situation sécuritaire s'y dégrade dangereusement, en effet 6 ans après le déclenchement de l'opération Serval, la lutte contre les groupes terroristes est dans une mauvaise passe, comme on l'a vu il y a quelques jours où plus de 50 soldats maliens ont été tués dans l'attaque d'un camp militaire dans le nord-est du pays, sans oublier bien sûr ce jeune militaire français qui a également perdu la vie samedi dernier. Alors que se passe-t-il au Sahel? Pourquoi la lutte contre les groupes armés est-elle en échec? Quelle responsabilité pour les États de la région qui semblent incapables de mettre sur pied une réponse sécuritaire appropriée? Et comment repenser la présence française au Sahel? Pour évoquer ces questions, nous avons invité Niagale Bagayoko. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, Alain Antil. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Avant d'évoquer cette question du Sahel, place à notre retour d'eux. En partenariat avec l'association des Prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Espagne, c'est Ludovic Lamant, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes journaliste à Mediapart, on vous reçoit pour une série d'articles consacrés à l'Espagne. Vous étiez à Barcelone, vous étiez à Madrid, il y a 3 semaines, il faut rappeler que avec l'annonce de la justice espagnole condamnant des indépendantistes pour des peines allant de 9 à 13 ans de prison, il y a de nouvelles mobilisations qui ont éclaté avec des affrontements à la clé. Ce retour de tension, il s'inscrit en particulier dans un contexte où les Espagnols, tous les Espagnols vont être invités à s'exprimer dans les urnes dimanche prochain pour des élections générales. C'est les 4e quand même en 4 ans. L'enjeu pour le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, c'est bien sûr de les emporter, mais aussi peut-être derrière de former une coalition, ce qu'il a échoué à faire depuis un an et demi. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre pour ce prochain scrutin? Quelles pourraient être les conséquences de cette crise catalane? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle est en train aussi de muter? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. D'abord, peut-être, Ludovic Lamant, un mot sur le débat télévisé que vous avez vu en début de semaine, le débat entre les 5 principaux partis, représentés par Pablo Casado du Parti Populaire, Pedro Sanchez donc du Parti Socialiste, Santiago Abascal de Vox, le parti d'extrême droite dont on parlera, Pablo Iglesias de Podemos, enfin d'Unidos Podemos, et puis Albert Rivera de Ciudadanos, le centre. L'impression générale, Ludovic Lamant, vous l'avez vu, qu'est-ce que ça vous laisse présager du scrutin de dimanche prochain, ce que vous avez vu à la télé?
Alors, la grande question du scrutin de dimanche, c'est est-ce qu'on va avoir effectivement une coalition possible, ce qui n'a pas été possible en avril dernier. Quand on regarde le débat télévisé de lundi soir, la réponse, c'est que rien n'a vraiment changé et qu'il n'y a pas vraiment de rien n'a vraiment changé.
Alors, il faisait un petit problème de micro. On va essayer d'ouvrir ce micro. Allez-y. On vous entend. Allez-y.
Qu'est-ce que je fais?
Ouais. Allez-y, continuez.
Quand on écoute le débat de lundi soir, on est assez sceptique sur le fait que des enseignements ont été tirés et que le blocage politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une coalition de gauche, est-ce que les droites peuvent se mettre d'accord, est-ce qu'on va vers un gouvernement entre le PP, Parti Populaire, et le PSOE, Parti Socialiste, tout ça, en fait, rien n'est réglé et l'impasse politique menace à nouveau. La différence entre le débat de lundi soir et les précédents débats en avril, c'est la présence de Santiago Abascal, de Vox. Avant, c'était des débats à 4, c'est un point important, et là, on était passé à 5 avec la présence de Santiago Abascal. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des débats entre les candidats de droite, entre les candidats de gauche, assez violents, entre Pablo Iglesias de Unidas Podemos et Pedro Sanchez du Parti Socialiste, et finalement, c'est Santiago Abascal au milieu a un peu déroulé, comme si de toute façon on s'attendait à cette surenchère, et du coup il a été très peu contesté, notamment sur des sujets clés comme la Catalogne sur laquelle le débat s'est ouvert.
Alors justement sur la Catalogne, Ludovic Lamant, Pedro Sanchez il est accusé depuis longtemps de laxisme sur cette question, alors là il s'est peut-être monté un petit peu plus incisif, il a proposé d'introduire par exemple un nouveau délit dans le code pénal pour interdire la tenue de référendums illégaux, Il a promis aussi d'obtenir l'extradition de Carles Puigdemont, qui est l'ancien leader catalan toujours en Belgique, alors même que, a priori, c'est une question qui ne devrait
pas ses compétences.
Voilà, intéresser que la justice, mais il a expliqué à un journaliste que, en fait, la justice, elle était quand même aux ordres du gouvernement, ce qui a quand même assez peu goûté du côté de la justice espagnole. Mais au-delà de cette polémique-là, comment est-ce que vous jugez ce durcissement de Sanchez sur la question catalane? Est-ce que c'est un calcul politique qu'il est en train de faire et est-ce qu'il peut fonctionner?
Il est obligé, vu la manière dont la campagne s'est construite. Je rappelle, c'est une campagne éclair, hein, très très courte, et qui a été marquée en gros par un événement, qui est le verdict de début octobre sur, là, on en a parlé, vous en avez parlé dans votre lancement, des responsables qui ont pris 9 jusqu'à 12 ans de prison. Donc il est pris dans une surenchère, et ce qui est très inquiétant, c'est que c'est quand même les positions de Vox, qui sont considérées comme ultra radicales, y compris sur la Catalogne, qui marquent le tempo de cette fin de campagne. Je donne un exemple, hier encore, alors c'est une résolution, c'est symbolique, ça n'aura pas de conséquences dans les faits, mais à l'Assemblée, donc au Parlement de Madrid, l'Assemblée régionale, Vox a proposé une résolution qui propose de rendre illégaux les partis indépendantistes, ceux qui peuvent nuire à l'unité de l'État. Et pour la première fois, le PP, Parti Populaire Droite, et Ciudadanos, Parti Libéral, ex-allié ou allié de La République En Marche en France, ont voté pour cette résolution. Donc il y a une majorité à l'Assemblée Régionale de Madrid sur cette question. Bon, c'est symbolique, mais ça prouve que sur chaque moment du débat, il y a une espèce de durcissement. Et donc Pedro Sanchez, il est un peu pris là-dedans. Pour nuancer un tout petit peu, la grande semaine catalane, où il y a eu des convulsions, des affrontements.
Ouais,
on se souvient des nuits agitées où j'étais en partie sur place. Là-dessus, Pedro Sanchez et le gouvernement ont quand même joué un jeu beaucoup plus mesuré, il me semble. Et ils ont appelé au calme, au respect, à la sérénité quand la droite était dans la surenchère. Et il y avait quand même là une espèce de tentative de posture d'homme d'État face à des surenchères électoralistes.
Et quoi, cette modération, est-ce que c'est peut-être ce qui caractérise la réelle position de Pedro Sanchez vis-à-vis de la question catalane?
Le PSOE reste très coincé sur la Catalogne, et comme tous les partis sont étranglés, mais là, il faut revenir sur la Catalogne, c'est décisif pour avoir des majorités à Madrid. Mais vous avez un parti qui est d'abord un parti de barons locaux, et notamment où l'Andalousie pèse très fort, et où en Andalousie, on est très radical sur ces questions-là. Et en même temps, il y a le Parti Socialiste Catalan, qui lui a des positions plus catalanistes. Donc Sanchez passe son temps à faire des synthèses impossibles.
Alors, sachant que les positions catalanistes, elles ne sont pas toujours très claires. Non. En tout cas, il y a plusieurs positions, et précisément, c'est ce point sur lequel on pourrait venir maintenant, Ludovic Lamont, parce que vous avez eu l'occasion, justement, de rencontrer un certain nombre de partisans de cette indépendance, notamment lors de cette grande marche qui a réuni quand même 500 000 de personnes. Ouais. C'est quelque chose de colossal. Et l'une des premières choses que vous constatez, que vous écrivez dans votre papier dans Mediapart, c'est que au-delà évidemment de la colère qui était évidemment très forte, ce qui apparaît, c'est un front indépendantiste particulièrement désuni et sans véritable stratégie, dites-vous.
Absolument. C'est vraiment la nouveauté depuis le verdict. Déjà au niveau partisan. Donc si on s'arrête juste sur les deux principaux partis indépendantistes, on a la gauche républicaine, Esquerra Republicana, qui est donc la grande figure, c'est Oriol Junqueras, qui est en prison. Et de l'autre côté, Junts per Catalunya, donc Ensemble pour la Catalogne. Alors ça, c'est un parti de droite, tenu par Carles Puigdemont, qui est à Bruxelles depuis 2017, et donc on a une bataille à distance entre Puigdemont à Bruxelles et Junqueras dans sa prison. Et les deux ont des stratégies différentes, y compris parce que depuis un an, Esquerra, qui n'a pas gagné pendant longtemps les élections, sait que c'est son moment. Ils sont très forts dans les dernières élections, il y avait eu des municipales, des régionales en mai, et ils savent que c'est leur moment, ils veulent diriger, ils veulent gouverner, et eux ont envie d'aller aux élections régionales. Et ils sont dans une stratégie où ils disent, de manière un peu raciste, on ne l'entend pas beaucoup je trouve à Paris ça, ils disent quand même, moi j'ai fait des entretiens avec des députés, etc., on n'a pas la majorité dans les urnes. En 2017, c'est vrai, nous n'avons toujours pas cette majorité, et il faut continuer à la construire et à augmenter, à accroître cette majorité. Et donc il faut prendre du temps, il faut se donner encore du temps, et il faut des négociations avec Madrid. Et donc il faut aller parler avec un gouvernement, et donc on vote pour, par exemple, un gouvernement dirigé par Pedro Sanchez, un socialiste. À côté, on a Carles Puigdemont et Junts per Catalunya, qui sont dans des stratégies totalement différentes. Lui est en exil et dans une situation très compliquée aussi par rapport à la justice espagnole. Vous avez parlé d'une extradition possible en décembre. La justice belge doit prendre une décision là-dessus. Et lui dit, c'est la stratégie un peu, alors il le dit pas comme ça, mais c'est la stratégie du débordement, du chaos. Et là, on a une alliance entre la droite indépendantiste qui se radicalise et des mouvements sociaux aussi qui ont fortement réagi. Et donc, pendant le verdict et pendant quand il y a eu ces scènes d'affrontement très forts, clairement, Esquerra était très mal et on voyait qu'il n'y avait pas du tout les mêmes positions parce que Kim Tora, qui est l'allié de Puigdemont à la région, lui avait évidemment envie que ce chaos perdure.
Et donc il a appelé au référendum l'année prochaine.
Absolument, ce qui a été un point de crispation totale. Tout de suite, marche arrière de Esquerra qui dit « Nous, on n'est pas engagés sur un nouveau référendum tout de suite ». On voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Ouais. Il y en a un qui est en exil, d'autres qui sont en prison et qui espèrent toujours peut-être des indultos, donc d'être amnistiés aussi à terme par un nouveau gouvernement.
Alors, jusque-là, on suit Ludovic Clément, c'est presque simple.
Je suis désolé.
Non, c'est très très clair, bon. Sauf qu'on va complexifier les choses parce qu'on a dans ce paysage-là un autre acteur qui a émergé. C'est la coupe, c'est un mouvement d'extrême gauche anticapitaliste qui a 4 députés au Parlement catalan. On a par ailleurs aussi un mouvement social qui émerge qui visiblement n'a pas l'air de se retrouver précisément dans les structures traditionnelles que sont les partis ou même les collectifs. Explique-nous peut-être d'abord, s'agissant du coupe, qui est un collectif visiblement assez mystérieux. Quel est son agenda? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment il pèse sur cette question catalane? Et puis ensuite, on verra pour ce qui est des mouvements, j'allais dire, extérieurs aux structures traditionnelles.
Alors, la coupe, c'est dans le paysage politique catalan depuis assez longtemps. Ils avaient fait une alliance...
Depuis quand?
Depuis les années 90. Ouais, ouais. C'est l'équivalent, on pourrait dire très vite, d'un espèce de NPA français, mais qui serait indépendantiste, avec l'idée qu'il faut rompre avec l'État espagnol, parce que c'est encore un État... post-franquiste, et que face à l'austérité décidée à Madrid, il faut reconstruire un État en Catalogne. Eux s'étaient alliés de manière assez opportuniste en 2015 avec les deux forces politiques dont on a parlé tout à l'heure, Esquerra et Junts, pour construire cette majorité qui a amené justement à ce référendum de 2017 qui n'a pas été reconnu par Madrid. Là, la complexité, moi, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en allant, là, c'est quelques jours à Barcelone, c'est que pour la première fois, alors que depuis 2015, vraiment, toute cette poussée indépendante, il y a une espèce de symbiose entre les partis et les grosses centrales de la société civile. Et il y a vraiment ces 2 millions de Catalans, ils sont à peu près 2 millions, hein, sur, bon, ils sont 7 millions en tout en Catalogne, donc pas de majorité, mais il y a vraiment une symbiose entre partis et les organisations de la société civile. Et là, cette chose se fissure. Et quand j'ai parlé un peu de débordement, là on a beaucoup parlé dans les journaux et on s'est tous posé la question, journalistes là-bas, de qui sont ces jeunes que l'on voit dans la rue qui ont alors entre 15 ans et 22-23 ans, alors pas forcément sur des actes de violence, mais sur à passer leur nuit entière à réclamer l'indépendance. C'est des acteurs nouveaux que moi j'avais pas vus et qui, quand vous allez voir les députés d'Esquerra, quand vous allez voir les députés de la coupe, même de la coupe qui est censée être plus en lien avec ses étudiants révoltés, etc., c'est nouveau. Ils sont un peu dépassés. Et donc c'est là où tous les jeux un peu stratégiques sont mis de côté, tous les calculs partisans, alors dans lesquels les partis catalans vraiment excellent depuis des années. Voilà, tout ça est un peu il y avait un moment un peu de ce flottement, genre mais qui sont ces gens, qui sont ces nouveaux acteurs? Et encore maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, d'où ils viennent, etc.
Oui, donc ça sera l'un des points d'interrogation pour la prochaine élection. Comment ces gens vont-ils voter? Ouais. Comment ces tout jeunes vont-ils voter?
Oui, et au-delà de ça, je pense qu'on va sans doute vers des élections.
Est-ce qu'ils vont voter d'ailleurs?
Oui, ça fait partie. Il y avait des appels à un boycott aussi des élections. On sait qu'il peut y avoir des actions. Donc là, on n'a pas encore parlé de Tsunami démocratique, qui est cette organisation qui avait appelé donc dès le lundi soir, une fois qu'on a rendu le verdict, au blocage de l'aéroport d'El Prat à Barcelone, un peu sur le modèle hongkongais. Ça se passe par application, ça se passe par réseaux sociaux, et ils ont réussi à mobiliser une foule suffisante pour bloquer l'aéroport. Alors, ça rentre dans une nouvelle stratégie un peu qui apparaît dans une partie de l'indépendantisme catalan, qui est de dire, on n'a pas réussi avec ce référendum, beaucoup de nos responsables politiques sont en prison et donc on a un problème de ressources. Maintenant, les stratégies, c'est aussi, on va viser les infrastructures et l'économie. Donc, c'est des choses plus compliquées à mettre en place. Mais clairement, l'aéroport, c'est ça l'idée. C'est de bloquer pendant un temps un aéroport. Là-dessus, il va falloir que les partis se positionnent. Et c'est pour ça qu'on va sans doute faire des élections régionales ensuite. Et que tout ça va durer encore longtemps. Parce que c'est une vraie génération qui vient d'émerger là-dessus. Et je ne pense pas que ça se règle en 3 mois.
Ludovic Clément, revenons peut-être à l'échelle nationale. Il y a donc ces élections dimanche prochain, puisque Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, n'a pas réussi à faire cette coalition, et en particulier, il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Pablo Iglesias du parti Podemos. Pourquoi cet échec? À qui la faute? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui en Espagne, la question à 1000 euros, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord?
Plus de 1000 euros. Le responsable de cet échec, c'est, si vous voulez, c'est la question de la campagne aussi. C'est-à-dire que les deux se renvoient la balle. La version, moi, ce que je peux vous donner, c'est les versions de chacun.
Ouais.
La version de Pedro Sanchez, Parti Socialiste, c'est que Iglesias a fait de la surenchère. Et qu'à un moment en juillet, on lui a proposé d'entrer dans un gouvernement, alors pas lui, mais quelqu'un de Podemos qui ne soit pas Pablo Iglesias, parce que Pedro Sanchez n'aime pas Pablo Iglesias. Donc il sentait qu'il fallait quelqu'un d'autre au Conseil des ministres. Mais cette proposition d'un gouvernement ensemble a été rejetée à l'époque parce que Podemos voulait notamment le ministère du Travail. Et il disait, on veut bien rentrer, on veut bien avoir des postes, mais on veut des trucs qui nous intéressent et qui ont du sens. Donc il voulait changement climatique et travail parce qu'il y a tout un enjeu en Espagne sur refaire, en fait, annuler les lois sur le marché du travail qui avaient passé la droite. Ça n'a pas marché. Du côté Unidas Podemos, on dit « Oh mais depuis le départ, en fait, Sanchez est pris par les barons locaux du Parti Socialiste, ne veut pas de nous, nous déteste, et de toute façon, c'est de la mise en scène, il sait que depuis le départ, il veut aller aux élections, et il est encore dans un schéma un peu à l'ancienne, c'est-à-dire type Felipe González 1982, c'est-à-dire à l'époque où l'Espagne était fonctionnait avec deux partis, avait des majorités énormes, et que lui, Pedro Sanchez, espérait encore, là en retournant aux élections, avoir 50% des voix, ce qui n'arrivera pas.
Et même s'il est en tête dans les sondages.
Il est en tête, mais il n'a pas les 50%. Là, je rappelle, il avait aux dernières élections d'avril, il a eu 28%, 123 députés sur 350 au Congrès. Donc il lui faut de toute façon construire des alliances. Un scénario possible alternatif, c'est une grande coalition, PSOE et PP. C'est ce que dit Podemos. Podemos dit, nous on est mort déjà, il a déjà son plan en tête. Évidemment, les deux autres disent, c'est impossible, ce serait du jamais vu en Espagne.
Mais pas exclu.
C'est compliqué, c'est-à-dire beaucoup disent aussi on va vers une redite et un nouveau blocage politique et dans 6 mois, nouvelles élections.
Et quel effet cette impossible coalition pour Podemos? Parce que y a des batailles d'ego à l'intérieur de Podemos depuis très longtemps, énorme. Il y a l'ancien numéro 2, Íñigo Errejón, qui a formé sa propre plateforme, Más País, plus de pays.
Oui.
Est-ce que finalement, la première victime, c'est pas précisément Podemos?
Alors, c'est une analyse qu'on peut faire. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'ils sont... Alors, si on en croit les sondages, et c'est toujours compliqué, mais Podemos, Ciudadanos, là, s'effondre un peu. Connaît vraiment une très, très mauvaise passe. Alors, libéraux, mais des positions aussi très dures sur la Catalogne, mais plutôt sur l'économie centriste, etc. Podemos reste sur un espèce de plafond de 14-15%, ce qui est quand même, pour une gauche radicale, une gauche critique, quand on regarde en Europe, c'est assez solide quand même. Mais c'est sûr qu'ils sont victimes d'énormes divisions, c'est très compliqué, donc vous avez dit, le numéro 2 a lancé un nouveau parti, et si vous voulez, moi, ça me rend un peu triste, il lance son parti, non pas sur des questions de fond, mais sur la promesse qu'il est le seul à pouvoir débloquer la situation politique. Et en le votant...
En quoi? Parce qu'il est prêt à faire une alliance avec Sanchez?
Parce qu'il dit que Iglesias et Sanchez sont responsables de l'échec, parce qu'ils ne savent pas faire des pactes. Ils ne savent pas faire de la politique un peu en 2019. Et lui est le seul à être ouvert, par exemple. Il dit, moi par exemple, si je négocie avec les socialistes, je suis prêt à m'entendre sur le fond, mais à ne pas rentrer dans le gouvernement. Iglesias dit, moi, il est hors de question qu'on fasse un accord si j'ai pas des ministres. Vous voyez, il essaie de montrer qu'il y a des manières de négocier qui sont plus soft, qui sont plus douces et qui peuvent permettre quand même ce qu'ils appellent un bloc progressiste d'exister.
Et qu'est-ce qui représente ce bloc progressiste au sein de Podemos?
Ah ben, pour le coup, il y a des
stratégies. Il va avoir des députés, Errejón, ou pas du tout?
On pense que lui, déjà, va être élu. Oui. Mais ça va être minuscule. Je pense que ça va être très, très faible. Les sondages lui donnent 3, 4, 5%. Ce sera difficile d'avoir un groupe. Après, chaque député va être important, vu que là, vraiment, je vous ai dit, ça va être une bataille pour trouver les 176 députés qui sont nécessaires sur les 350. Et donc, du coup, de toute façon, même s'il a quelques députés, il va être dans la négo.
Le premier bénéficiaire de cette crise, à la fois en Catalogne, mais aussi au niveau de l'ensemble de l'Espagne, c'est Vox, c'est l'extrême droite.
Mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Je me méfie un tout petit peu parce que c'est déjà ce qu'on disait en avril dernier, où moi j'avais pas mal suivi, notamment en Aragon, dans le nord de l'Espagne, des meetings de Vox. Alors, je rappelle, Vox est 0,5% aux législatives de 2015. Ils ont fait 10% en avril. Donc c'est absolument énorme. Et par ailleurs, dans la famille des partis d'extrême droite en Europe, c'est un parti néo-franquiste qui, par exemple, fait campagne en ce moment pour la suppression, par exemple, des budgets qui sont donnés à aider aux luttes contre les violences de genre, donc les batailles féministes. C'est vraiment un parti extrêmement radical qui fait 10%. À l'époque, on le voyait beaucoup plus haut déjà. Donc, faut peut-être se méfier aussi de certains sondages. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le débat de lundi sur lequel on a ouvert cet entretien confirme cette impression que les sujets, la Catalogne, et on n'a pas parlé de l'exhumation des restes de Franco aussi, mais qui rappellent que les questions mémorielles et le rapport à Franco est complètement prégnant et encore à régler et encore un grand défi pour l'Espagne qui arrive. Tout ça sert un peu quand même le parti de Santiago Abascal.
Que Sanchez a eu le courage quand même d'une certaine manière d'affronter, parce que ses prédécesseurs, peut-être à part Zapatero,
absolument,
il y a une dizaine d'années, avait fait passer une loi mémorielle, mais en tout cas, il a osé affronter question-là. On ne va pas avoir le temps de l'aborder, donc j'invite les auditeurs, Ludovic Lamant, à se rendre sur le site de Mediapart et à lire précisément votre article qui porte précisément sur ce transfert des restes de Franco. Merci beaucoup Ludovic
Lamant
d'être passé. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Mediapart. Merci beaucoup. Et Bruxelles, chantier, une critique architecturale de l'Europe, c'était chez Lux. Également squatter le pouvoir, ces rebelles qui ont pris les mairies d'Espagne, c'était aussi chez Lux. Merci beaucoup.
Merci.
Oh, m'agraden les teves formes, les teves corbes, el teu color, la teva olor i la dolçor i suavitat del teu tacte, el to tan càlid de la teva veu quan respons a mes carícies. Volar amb tu no em costa gens, jugar-hi no em costa gaire, amb tu tot és més intens que en un quart qualsevol altre, un sentiment immens, potestat, plenitud, un plaer incomparable.
Voilà, c'était avec cette belle chanson du chanteur catalan Pau Riba qu'on se quitte. On va prendre la direction du Sahel. Comment repenser la présence française au Sahel? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque samedi dernier, l'armée française a perdu l'un de ses soldats au Sahel, Ronan Pointeau, mais elle n'est pas la seule à essuyer des pertes. En effet, à la suite d'une attaque des forces armées maliennes, 53 soldats maliens ont perdu la vie. C'est le week-end dernier. Et face à ce regain de violence, la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue sur place pour réaffirmer, bien sûr, son soutien dans cette lutte contre le djihadisme.
C'est un combat que nous savons long, difficile, et nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des partenaires fiables comme l'est le partenaire tchadien. Nous avons également abordé ensemble les progrès réalisés par la force conjointe du G5 Sahel. Il y a eu une opération dans la partie nord du Sahel, Amman 2, qui a été réalisée au cours du mois d'octobre et qui a permis des prises, la découverte d'armes et donc la confiscation d'armes importantes. C'est un des succès récents de la force conjointe. Donc ce sont des succès qu'il faut encourager. Et j'ai souligné auprès du président Déby la nécessité de continuer d'accompagner cette force conjointe qui est en phase progressive d'opérationnalisation sous le commandement du général Namata.
Voilà, des succès qui quand même masquent un échec global. Alors est-ce que la France doit revoir les modalités de sa présence au Sahel? Comment repenser les choses pour que la lutte contre les groupes armés soit plus efficace? Comment comprendre qu'ils regagnent du terrain aussi, du Mali au Burkina? Pourquoi les pays de la région ne parviennent pas à y faire face? Pour évoquer toutes ces questions, Niagale Bagayoko est avec nous. Je vous remercie encore d'être avec nous ce matin. Également Alain Antil, notre partenaire du Monde le vendredi, c'est aujourd'hui Christophe Châtelot. Christophe, l'opération Barkhane, elle a maintenant 5 ans. Force est de constater, on dit depuis des mois que ça va pas du tout dans le bon sens, les groupes armés montent en puissance un peu partout, on a là un soldat tué, français qui vient d'être tué le week-end dernier, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voit bien que les choses non seulement s'enlisent, mais qu'en réalité l'armée française est dans une impasse aujourd'hui au Sahel. On ne sait pas ce qu'il faut faire.
Oui, on peut déjà dresser un premier bilan. On a un peu de recul maintenant depuis 2012, l'opération Serval qui, à ce moment-là, avait été destinée à éviter, disait-on, l'effondrement du Mali. Le fait est que le Mali, à ce moment-là, a été coupé en deux. Toute la partie est et nord était tenue par une coalition fragile d'ailleurs, mais qui a explosé d'indépendantistes Touareg et de groupes armés djihadistes, disons-le comme ça. Cette opération Serval, s'est soldée par une demi-victoire, donc un demi-échec aussi, dans le sens où les groupes ont volé en éclats, mais n'ont pas été anéantis. Et on le voit aujourd'hui, ils se sont reconstitués. Alors à la suite de Serval, qui était concentré sur le Mali, il y a eu Barkhane, qui a un champ d'activité plus large sur le Sahel, donc sur un territoire grand comme l'Europe. Barkhane, ce sont seulement 4500 hommes. Ça ne veut pas dire non plus 4500 combattants, donc sur un territoire absolument immense. On ne peut pas attendre de miracles de la part de Barkhane. Mais l'un de ses objectifs était que les armées locales s'approprient la sécurité et la défense de leurs espaces. Et sur ce point-là, c'est aussi un échec. On le voit avec l'attaque d'Indeliman, on le voit avec les attaques au nord du Burkina Faso. Les armées locales ne sont pas en mesure de mener cette guerre asymétrique et contre-insurrectionnelle. Donc il n'y a pas d'appropriation et la menace s'étend, descend dangereusement vers le sud, vers le golfe de Guinée. Je reviens du Burkina, on dit qu'un tiers du territoire est hors contrôle des autorités. L'armée burkinabé a déserté 4 ou 5 des 6 emprises militaires qu'ils avaient au nord, ils ne sont plus là. Voilà, c'est très, ouais, très inquiétant.
Oui, parce que le Burkina, c'était véritablement une digue qui protégeait d'une certaine manière tous les pays qui sont au sud, et aujourd'hui, c'est terminé. Niagale Bakayoko, peut-être une réaction sur le discours qu'on entendait, en tout cas un extrait du discours de Madame Parly cette semaine. Elle parlait de succès. En réalité, c'est quand même un échec, et Christophe Chaclot le rappelle, il a raison. En réalité, peut-être que l'échec, il remonte dès les premiers moments de l'intervention française. Effectivement, quel était l'objectif de départ ? Est-ce que c'était réellement de lutter contre les groupes armés ? Ou est-ce que le vrai problème, la véritable crise n'était pas ailleurs, à savoir en réalité déjà la faillite de l'État malien qu'on n'a pas aidé à se reconstruire ? Niagale Bakayoko.
Alors, moi, il me semble que l'échec, il est en réalité collectif et ne concerne pas uniquement la France, mais on s'aperçoit que l'ensemble des acteurs ont des difficultés à faire face à la situation. Et à mon avis, une des explications de cela tient à la lecture qui est faite du type de conflictualité, du type de conflit auquel on a affaire. Donc la question que vous posez, à savoir quels étaient les objectifs initiaux, ils étaient de mener, et ils restent d'ailleurs, de mener une lutte antiterroriste. Et la question qui se pose est de savoir si, d'une part, ce phénomène terroriste est le seul qu'il s'agit de contrer. À mon avis, non, parce que les menaces sont extrêmement hybrides et multiformes dans la zone. Et d'autre part, la question est de savoir si les moyens mobilisés sont les bons.
Ouais. Alain Antil.
Je crois qu'il faut revenir sur les objectifs de Barkhane, parce que Barkhane n'est pas le couteau suisse qui va régler tous les problèmes du Sahel. Il y a des problèmes de gouvernance qui sont énormes. Les objectifs affichés de Barkhane, c'était d'aider les cinq armées à mieux se coordonner, en leur fournissant du renseignement, en les aidant à faire des opérations conjointes sur leurs frontières communes et effectivement à combattre le djihadisme.
Quand vous parlez des cinq armées, c'est le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, pour les auditeurs.
Et il faut dire déjà que les cinq pays sont dans des situations très différentes aujourd'hui. C'est-à-dire que le Tchad, même si ça se dégrade, et surtout la Mauritanie, ne sont pas dans des situations aussi dégradées que le Mali et le Burkina Faso, qui sont vraiment l'épicentre des problèmes sahéliens. Donc il faut rappeler, il faut juger finalement Barkhane à l'aune de ses objectifs initiaux. Barkhane ne va pas solutionner tous les problèmes sécuritaires du Burkina Faso et du Mali. Par exemple, aujourd'hui, au Burkina Faso, on a commencé il y a 3 ans, il y avait des problèmes sécuritaires dans le département de Soum, enfin dans la région de Soum. Ça s'est propagé à l'ensemble du nord du pays, comme le disait Christophe tout à l'heure, et maintenant c'est l'Est qui est touché, comme on a vu encore hier avec l'attaque extrêmement sophistiquée de ce convoi d'employés d'une mine canadienne. Donc on est face à une extension géographique des problèmes, et comme le disait Niagale Bagayoko, il faudrait prendre un peu de temps pour définir ce que c'est que le terrorisme dans la zone, parce que on n'a pas un front qui avance. En réalité, on a, moi j'utiliserais plutôt une image de plein de petits feux qui couvent et qui se réveillent ou qui s'éteignent. C'est-à-dire qu'on a des micro-conflits qui sont là parfois depuis plus de 10 ans et qui peuvent devenir violents à un moment donné et qui peuvent recouvrir un manteau djihadiste.
Et donc nous, on a une impression de front qui avancerait, mais ce qui correspond pas à la réalité. Niagale Bakayoko, cette semaine, le général Clément Bollé a signé une tribune dans Le Monde. J'imagine que vous l'avez lu. Il explique qu'il faut absolument revoir la stratégie de la France au Sahel. Il explique que l'opération Barkhane est dans l'impasse. Il parle d'une situation qui est plus du tout maîtrisée. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut laisser la première place aux acteurs locaux. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut s'effacer? Et est-ce que c'est possible? Niagale Bagayoko.
Alors, en effet, c'est une question qui ne date pas, à mon avis, de l'éclatement de cette crise au Sahel.
Il est rare que les militaires l'expriment eux-mêmes.
Mais le général Clément Bollé a toujours des positions extrêmement courageuses et qui cherchent justement à rebattre les cartes et à interroger. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous posez la question de la mise sur pied de capacités africaines, et c'est quelque chose qui remonte dans la politique africaine de la France à 1997. Hein. Lionel Jospin, à l'époque, parlait d'une politique de non-ingérence, sans indifférence, et l'idée était déjà de construire des capacités africaines. Alors là, il ne s'agissait pas de construire des capacités africaines de contre-terrorisme, mais de capacités africaines de maintien de la paix. Et plus de 20 ans plus tard, on est toujours dans cette problématique. Un certain nombre d'efforts ont été menés en ce sens. Et effectivement, on n'est pas encore arrivé à obtenir des résultats. Mais de manière réaliste, peut-on croire que des armées qui, pendant 30 ou 40 ans après les indépendances, ont été avant tout vouées à défendre des régimes et non pas à défendre des États ou à protéger des populations, vont pouvoir être réformées du jour au lendemain? Non, bien entendu, c'est un processus qui est long et qui, à mon avis, vous posez
ça
la question...
Ça va prendre combien de temps? Parce que le G5 Sahel, c'est 2014, la mise en place.
Réformer une armée, c'est 25 ou 30 ans.
D'accord, donc on y va.
Et pardon, si je peux juste terminer, il ne s'agit pas seulement de réformer des armées, parce qu'on est toujours centré sur cette question de l'instrument militaire. Il s'agit de réformer des instruments, des appareils de défense et de sécurité, donc des appareils policiers, des appareils douaniers, etc., en mettant l'accent, comme le disait Alain, aussi sur la gouvernance.
Christophe Châtelot, et puis ensuite Alain Antil. Christophe Châtelot. Alors,
oui, la question se pose d'autant plus qu'il y a eu un sommet à Ouagadougou, donc capitale du Burkina, avec tous les États membres de la CDAO, donc l'Organisation sous-régionale d'Afrique de l'Ouest. Et ça pose problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le G5, qui était une petite organisation, n'arrivait déjà pas à s'en sortir, n'arrive pas à s'en sortir, et qu'on va la diluer à nouveau dans un espace plus grand, en mettant sur la table les forces africaines en attente qui n'ont jamais fonctionné. Et est-ce que ça ne risque pas de siphonner tous les moyens humains et financiers que l'on aurait pu destiner au G5, les siphonner pour les diluer dans un espace plus important qui n'a pas fait preuve de son efficacité? Est-ce que c'est pas repousser le problème sans trouver de solution?
Alain Antil, cet élargissement à la CDAO, bonne idée ou mauvaise idée?
Ben, très mauvaise idée, parce que la CEDEAO a fait la preuve, justement au début de la crise malienne, de son incapacité militaire. Alors elle a eu elle a marqué des points diplomatiques, parce qu'elle a elle est intervenue diplomatiquement de manière très très vigoureuse. Mais avant la MINUSMA, c'est-à-dire l'opération des Nations Unies au nord du Mali, il y avait la MINUSMA s'est fait sur dans la prolongation de la MISMA, qui était une opération de la CEDEAO qui malheureusement n'a pas prouvé son efficacité. Donc aujourd'hui on a une tentative de retour de la CEDEAO sur ces questions, mais le G5 s'est aussi construit comme G5 parce que les pays du G5 sont à cheval sur trois régions africaines. La Mauritanie fait partie de l'Union du Maghreb arabe et le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Et comme le disait Christophe, la CEDEAO, les forces en attente, l'architecture de paix et de sécurité, on en parle depuis 1997, ça a très très peu évolué. Et tout ça se combine à des effondrements d'appareils sécuritaires, c'est-à-dire de défense et de sécurité, comme au Burkina Faso, où par exemple, avant 2016, l'armée burkinabé ne s'était jamais battue contre quiconque. Elle a eu quelques combats il y a une vingtaine d'années sur la frontière avec le Mali, c'est tout.
Niagale, toujours pas battu d'ailleurs. Niagale Bagayoko, bonne ou mauvaise idée? Christophe Châtelot parlait de ce sommet de Ouaga début septembre. À l'issue du sommet, on a annoncé le déblocage d'un milliard de dollars sur 5 ans. C'est une excellente idée, tout va bien se passer, Niagale Bagayoko.
Alors, deux éléments. D'abord, je vais réagir sur cette question du déblocage des fonds, qui se pose pour tous les acteurs. À chaque fois qu'il y a un sommet, on annonce effectivement des sommes faramineuses. Et tout ça, à mon avis, doit nous inciter les décideurs à introduire dans leur planification, dans leur processus de projection stratégique, justement cette question des processus de décision. C'est essentiel de comprendre que débloquer des fonds, c'est extrêmement compliqué, que chaque organisation a des logiques bureaucratiques au sens propre du terme. Il n'y a pas de critique dans l'usage de ce terme. C'est essentiel de les inclure dans la réflexion et dans la projection stratégique. Si on comprend que pour débloquer des fonds, il faut 6 mois ou 1 an, on ne s'étonnera pas qu'au bout de 3 mois, rien ne se soit passé sur le terrain. Et à mon avis, ce travail n'est pas fait. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est par rapport à ce que viennent d'indiquer mes collègues. Moi, je verrai les choses un petit peu différemment. Moi, je pense que la CEDEAO n'est pas seconde. En réalité, effectivement... Ce n'est pas aujourd'hui une extension du G5 Sahel qu'on assiste. En réalité, on est face à un phénomène, mais qui ne date pas de la crise sahélienne, de prolifération des cadres multilatéraux en Afrique subsaharienne, chacun se dotant de manière croissante de capacités en matière d'intervention dans les questions de sécurité. Il faut savoir que la CEDEAO, à l'origine, est une organisation à vocation économique. L'UOMOA, qui est une organisation à vocation monétaire et économique, a également annoncé la semaine dernière qu'elle avait l'intention de déployer des forces de certains de ses États, notamment Côte d'Ivoire et Sénégal, dans la zone des trois frontières. Et à mon avis, ce phénomène ne va pas s'arrêter, parce que si on regarde le nombre d'organisations qui ont un mandat pour intervenir dans la zone, il y en a au moins une dizaine.
La CEDEAO prévoit pas d'intervenir militairement, elle prévoit juste de débloquer de l'argent.
Oui, mais ce que je veux dire, elle pourra à terme le décider. Et moi, je suis pas totalement d'accord, vous êtes un tout petit peu sévère avec la CEDEAO, qui a quand même fait beaucoup au début des années 2000, fin des années 90, dans la gestion de la crise dans la rivière Mano, au Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Mais tout ça pose aussi la question, c'est un acteur qu'on évoque rarement, mais qui compte, qui est l'Union africaine, parce que la MISMA, c'était pas uniquement une mission de la CEDEAO, c'était une mission de l'Union africaine, sous conduite africaine en fait.
Pensez qu'il faut solliciter davantage l'Union africaine dans cette crise sécuritaire?
Mais je pense que la question qui se pose aujourd'hui est de repenser ce qu'on appelle l'APSA, c'est-à-dire l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui aujourd'hui fonctionne, pour schématiser, depuis le Conseil de paix et de sécurité jusqu'aux communautés économiques régionales. Il n'y en a que 8 qui sont identifiées. Et aujourd'hui, il faut intégrer dans le dispositif toutes ces autres organisations, dont le G5 Sahel, pour arriver à un dispositif à géométrie variable.
Alain Antil et ensuite Christophe Châtelot. Alain Antil.
Oui, sur le fait que l'APSA ne fonctionne pas encore, certains pays ont décidé de créer des organisations qu'on appelle ad hoc, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre des communautés économiques et régionales. Et le modèle dont s'est un peu, enfin il y a plusieurs modèles dont s'est inspiré le G5 Sahel, notamment la FMM, la Force Multinationale Mixte, c'est-à-dire les pays qui ont en commun le problème de Boko Haram et maintenant l'État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun coopèrent de manière plus ou moins efficace sur cette question. Et le G5 Sahel s'est inspiré en partie de ça et en partie d'un système dont on parle moins, c'est la coopération entre le Tchad et le Soudan, la FMTS, qui est une coopération entre deux pays pour gérer en commun leurs frontières. Et le G5 Sahel, la philosophie, c'est de gérer en commun les frontières, d'un point de vue en mettant un effort de développement sur ces espaces frontaliers, et puis un effort de coordination des armées.
Il est réel cet effort de développement, parce qu'effectivement, il y a un volet en théorie développement dans le G5 Sahel. Il est vraiment en place, il a vraiment des effets ou
pas pour l'instant. En plus, dans des zones, pour la zone des trois frontières entre Burkina, Mali, Niger, c'est très difficile de faire du développement dans une zone qui est en guerre.
Christophe Châtelot.
Oui, ce pilier développement, c'est aussi une vraie question, parce que c'était au départ le G5. Le G5, c'est ça. G5 Sahel, c'est le développement. C'est après qu'est venu se greffer la force conjointe du G5 Sahel. Mais on a l'impression là aussi que l'on n'a pas laissé le temps à cette structure de mûrir. Alors les responsabilités sont partagées, mais on a l'impression ces derniers temps que ce sont les bailleurs qui ont repris la main sur tout ce volet développement du G5, qui normalement devait partir. La force de proposition devait venir des pays concernés, qui savent mieux que personne ce qu'il leur faut en termes d'infrastructures, qui peuvent être des micro-projets à des frontières, organiser des couloirs de transhumance avec des points sanitaires vétérinaires, ça peut être aussi bête que ça. Et là, on a inversé la pyramide, et ce sont maintenant les bailleurs qui décident, ouais, et qui vont, comme d'habitude, décider sur des projets qu'ils jugeront, eux, rentables, qu'ils savent faire, et à l'intérieur du G5 Sahel, encore une fois, les torts sont partagés, mais il y a un vrai sentiment de découragement. Ils ont été, on leur dit de s'approprier ces questions et on les dépouille dans un deuxième temps.
Niagale Bagayoko, sur ce point en particulier du développement que visiblement on ne prend absolument pas dans le bon sens, nous dit Christophe Châtelot. Ensuite, il y aura une autre question sur la présence onusienne, mais je vous en prie.
Alors, Christophe a utilisé le mot qui, à mon avis, est la clé d'explication de toute votre démonstration, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire le mot « appropriation ». Qu'est-ce que c'est que ce mot « appropriation » qui est en fait la traduction impropre du mot « ownership hein, » et qui, en réalité, restitue une idée qui est à l'inverse de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'on dit aux acteurs locaux « soyez les premiers artisans de votre développement, etc. » mais on leur dit « appropriez-vous ce qu'on vous propose. Donc, prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. » Et le malentendu, à mon avis, sémantique est extrêmement fort autour de ce mot « appropriation ». Et en effet, je vous rejoins pour dire qu'aujourd'hui, on est face à des projets. Vous parlez de la gestion des frontières. C'est très intéressant. Je citerai pas le pays, mais moi, j'ai rencontré une direction des frontières d'un des pays du Sahel qui m'expliquait qu'il travaille, là encore, dans le cadre de l'Union africaine. C'est compliqué en Afrique, la gestion des frontières. Il y a la question de la délimitation, la question du bornage. Tout ça n'est pas si clair que ça, et qu'ils ont vu arriver des acteurs extérieurs qui leur ont proposé des projets complètement déconnectés de ce qu'ils étaient en train de mettre en place, sans tenir absolument compte de leur perception.
Alain Antil, j'ai vu que vous vouliez réagir.
Sur ce sujet, et pour abonder dans le sens de mes deux collègues, en étant précis sur le G5 Sahel est une organisation de développement au départ, comme Christophe a dit, qui s'est dotée d'un bras armé. Quand on regarde les budgets votés au sein du G5 Sahel, les budgets sont très largement dévolus aux aspects développement. Parallèlement, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, les bailleurs s'organisent dans un système qui s'appelle l'Alliance du Sahel. Et l'Alliance du Sahel, quand elle a vu les premiers budgets qui s'appellent le PIP, plan d'investissement prioritaire, a dit, nous, vos questions d'infrastructure, qui était la question centrale du volet développement du G5, on ne veut pas en entendre parler, ce sont des éléphants blancs. Donc là, on a des bailleurs qui disent, tout votre travail là, de programmation, c'est rien du tout. Et après, on dit au pays, prenez-vous en charge. Donc là, on est sur un nœud très particulier sur lequel il faut s'étendre.
Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre. Je vous demanderai des réponses rapides parce qu'on a encore plein de choses à évoquer ensemble. Mais c'est la question que vous évoquiez tout à l'heure de la MINUSMA. La présence onusienne dans la région, elle est très importante. C'est 13 000 personnes, je crois que c'est 11 000 soldats, mais 13 000 personnes. La CDAO, par exemple, au sommet de Ouagadougou, a demandé à ce que, justement, on élargisse un peu les objectifs, les missions de ces casques bleus. Mais est-ce que réellement l'ONU est disposée à envisager effectivement d'élargir sa mission sur place, ou est-ce que tout au contraire, on pourrait avoir un scénario qui serait peut-être assez catastrophique pour la France, par lequel au fond l'ONU se retirerait de la zone et laisserait seule la France. Si je ne m'abuse, je crois que le mandat avait été prolongé jusqu'au 30 juin dernier, mais qu'en réalité aujourd'hui il est plus prolongé.
Si, il a été prolongé jusqu'au 30 juin.
Jusqu'à l'année prochaine, donc ouais, ça voudrait dire que potentiellement l'ONU pourrait décider au 30 juin prochain de se retirer.
Alors l'ONU, c'est pas elle qui va décider en tant que telle, mais bon.
J'entends bien. Mais est-ce que ce scénario est possible?
Non, moi j'y crois absolument pas, parce que justement, ne serait-ce que parce que la France est au Conseil de sécurité, ne peut pas soutenir une telle option.
On n'a jamais vu d'opération de la paix se retirer comme ça.
C'est impossible d'un point de vue opérationnel en plus.
Oui, et puis il y a des logiques internes. Tout le monde a intérêt à prolonger ces missions, même s'ils sont des échecs totaux.
Ah, très bien, c'était donc une question qui apportait des réponses courtes.
L'État malien n'est pas revenu dans la totalité des localités, c'est moins qu'on puisse dire, du Nord-Mali. Sur les aspects de santé, de développement et d'éducation, et ni sur l'armée malienne ne s'est pas déployée dans tout le nord du pays. Donc aujourd'hui, la MINUSMA a une mission très importante aussi.
Parfait, c'est pas une option, c'est très bien, ça a été rapide. Comme chaque vendredi, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin, c'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Et alors, le dessin dont vous allez nous parler ce matin pourrait s'intituler La pieuvre islamiste, Hélène.
Oui, c'est un monstre mi-homme, mi-poulpe que ce dessin met en scène. Cette figure hybride a une tête effrayante avec une bouche grande ouverte qui laisse entrevoir une dentition disproportionnée et des yeux exorbités aux pupilles rouges. Cette tête est coiffée d'un turban et sa barbe touffue se métamorphose en tentacule, 8 pour être précise, comme une vraie pieuvre. Sur chacune d'entre elles, on peut lire le nom des pays où des groupes terroristes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique ou à l'État islamique se sont immiscés. Algérie, Mauritanie, Libye, Nigeria, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Cette caricature a été croquée par le dessinateur de presse Glaise qui vit au Burkina Faso depuis 25 ans. Alors, elle date de 2012, mais elle est encore pertinente aujourd'hui car le terrorisme islamiste ne cesse de s'étendre, notamment dans les pays du Sahel. Dans la culture populaire, la figure de la pieuvre sert souvent de métaphore pour représenter une organisation qui assoit secrètement son emprise. Alors, les forces armées locales et étrangères peinent à éradiquer les groupes liés à ACMI et à l'État islamique dans cette région. Ces groupes parviennent sans cesse à se réorganiser comme les poulpes dont les tentacules sectionnés repoussent. Et comme les pieuvres dont le poids double presque tous les 3 mois et dont l'appétit est proportionnel à la taille, ces organisations ont grossi, se sont enrichies et renforcées au fil des années. Tout récemment, l'État islamique a perdu sa tête, al-Baghdadi, mais contrairement à une pieuvre, l'organisation n'en mourra pas. Elle l'a d'ailleurs rapidement remplacée. Et maintenant qu'elle a perdu son califat en Irak et en Syrie, elle pourrait ventouser un peu plus ces pays d'Afrique.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois. Donc pour ce dessin qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, qu'on met sur le fil Twitter de l'émission, le scénario décrit par Hélène Lefrançois, malheureusement, il n'est pas complètement inenvisageable. Effectivement, on voit des États de la région qui n'arrivent pas à faire face à cette insécurité. La France pas beaucoup plus, l'ONU pas beaucoup plus. Alors j'entendais évidemment tout à l'heure Alain Antil qui nous expliquait que Ouais, plutôt une situation de feu un peu éparse comme ça, mais malgré tout, effectivement, est-ce que le fait que Daesh ait perdu son emprise sur les territoires du côté de l'Irak et de la Syrie, est-ce que les conditions ne seraient pas réunies pour voir l'émergence d'une nouvelle base arrière de Daesh dans ce Sahel à la Antille?
Bah, il est déjà présent.
Puisque, il est déjà présent.
Puisqu'il y a deux organisations qui sont rattachées à l'État islamique. Il y a l'État islamique au Grand Sahara et puis...
qui avait été créé en 2015.
Oui, et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est sur le bassin du lac Tchad, enfin sur les îles du lac Tchad. Moi, pour réagir au dessin, je dirais que ce qui me gêne dans le dessin, c'est qu'il y a une tête. Ça laisse à penser qu'il y a quelque chose de très centralisé, alors qu'à mon avis, on a plus des dynamiques locales qui vont rejoindre des courants nationaux. Et ce qui est le plus grand danger, à mon avis, c'est la circulation des combattants. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a des combattants sahéliens qui sont en Libye, qui pourraient revenir si la situation libyenne s'améliorait. Et on a aussi ces problèmes-là. Et puis, il faut insister sur le fait que la force de ces organisations, c'est de pouvoir toujours recruter. Une organisation comme Boko Haram arrive toujours à recruter de force ou de gré ou de force des combattants. Elle peut se permettre de perdre des 50 ou 100 combattants dans une seule bataille.
Malheureusement, les conditions économiques et sociales sont toujours là pour permettre justement de retrouver de nouveaux combattants. Christophe Châtelot, oui, et ensuite Sénégalais Bagayoko.
Sur la circulation des combattants, il y a une analyse là, qui est tombée ces derniers jours, centrée sur l'utilisation des engins explosifs improvisés au Niger, dans la région de Tillabéri notamment. Donc c'est cette zone des trois frontières, le Gourmali-Ptako, Mali, Burkina Faso et Niger. Et ils se sont aperçus en analysant la nature des explosifs et le mode opératoire des groupes qu'il y avait très évidemment une circulation du savoir-faire dans ce domaine-là et qui descend, alors bon, c'est compliqué à retracer, mais probablement, oui, de Libye, de groupes qui s'entraînent au Mali, pourquoi pas de Boko Haram. Mais il y a très clairement une signature maintenant dans l'utilisation de ces armes qui confirme la circulation de combattants et de savoir-faire. C'est très inquiétant. En effet, ce sont des conflits très localisés, parfois très locaux, mais il y a une idéologie porteuse qui, elle, est transnationale. Et comment lutter contre ça ?
Niagale Bagayoko, est-ce que le scénario d'une implantation durable, profonde de Daesh dans ce grand Sahel est à craindre ?
Alors, une fois de plus, en effet, c'est des compliqués. Enfin, Alain soulignait le caractère acéphale, hein, en fait, de ce qui est en train de se mettre en place. Oui, j'abonderai dans le même sens, c'est-à-dire que les racines locales de ces mouvements font leur force en réalité. Et c'est ce qui rend aussi le caractère de l'environnement si hybride, c'est-à-dire qu'un certain nombre de leaders, et notamment le leader du JSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, donc Yad Aghali, et un ancrage local très fort dans les tribus du Nord. L'un des leaders du centre du Mali, qui fait partie du JSIM aussi, donc Amadou Koufa, de la Katiba du Massina, lui également a des liens très forts avec la communauté Peul, cette fois, alors qu'il y a Galice avec la communauté Touareg. Donc c'est ça aussi qui fait la force de ces mouvements et qui rend aussi, à mon avis, difficile le fait de faire une translation absolue avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Moyen-Orient.
Est-ce qu'on arrive justement quand même un peu à neutraliser ces cadres de ces grands groupes? Florence Parly a annoncé l'élimination cette semaine de Abou Abderrahmane Al-Agribi, qu'on appelle aussi Ali Maïchou, le numéro 2 du Rassemblement pour la Victoire de l'Islam, qui est un groupe qui est affilié à Al-Qaïda. Est-ce que réellement on arrive à neutraliser les cadres de ces groupes un peu? Elle a parlé d'une victoire, mais est-ce que vraiment on peut se réjouir? Ou est-ce qu'en réalité, de toute façon, on a toujours une autre figure qui vient la remplacer? D'une certaine manière, rien n'avance, on n'arrive pas à les déstabiliser. Elle est désorganisée.
Entre Serval et Barkhane, effectivement, il y a de nombreux leaders d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de différentes composantes qui ont été neutralisées, mais ça n'a pas empêché les mouvements de se reformer autour de, bah de, des numéros 2, des numéros 3 des organisations. Et c'est le côté Barkhane, et on n'a pas parlé de Sabre, qui est l'autre opération française dans la zone, ont une vraie efficacité militaire, je crois qu'il faut le dire, mais on est face à une situation où le nombre de combattants augmente, le nombre de victimes augmente, les zones de toucher augmentent.
Niégalé Bagayoko.
Oui, mais
ça
là,
fait, attendez, ça fait maintenant presque une demi-heure qu'on discute autour de ça, on voit bien qu'on est dans une impasse, que c'est l'échec. Est-ce qu'au fond, les conditions ne sont pas réunies précisément pour ouvrir un vrai dialogue, pour parler avec tout le monde? Il fut un temps, du côté de l'Afghanistan, les États-Unis disaient « il est hors de question de parler avec les talibans ». On voit bien que maintenant, on y arrive, en tout cas on le fait, alors d'accord, il n'y a pas encore... Mais enfin, on parle. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue qui est la dernière et la seule option?
C'est la question qui est posée par un grand nombre d'acteurs locaux, hein, et, mais qui renvoie aussi à la qualification, on en a encore parlé, du phénomène qu'on veut contrer. Est-ce qu'on est face à un phénomène terroriste ou est-ce qu'on est face à un phénomène insurrectionnel, ouais. Pardon, la réponse n'est pas la même, parce que est-ce qu'on est face à des acteurs qui tuent simplement aveuglément, ou est-ce qu'on est face à des acteurs qui sont là pour proposer un autre projet politique, un autre projet de société, même si évidemment il ne correspond pas à celui qui est souhaité par la France ou par des États africains, mais à ce moment-là, n'y a-t-il pas la nécessité, si on est face à deux projets politiques différents, de discuter? Et cette problématique est posée. Après, c'est difficile d'y répondre, dans la mesure où il y a, même si la plupart des attaques sont concentrées sur des représentants de l'État, sur des forces internationales ou sur des forces armées nationales, il y a quand même encore un tel grand nombre de victimes civiles qu'en effet, il faut quand même mettre prudent avant d'engager des négociations.
Parmi ces victimes, il ne faut pas oublier non plus les représentants, j'allais dire, des pouvoirs locaux traditionnels. Absolument. Et on a l'impression que les ressorts de médiation et de discussion sont un peu cassés. Les chefs de village, les chefs religieux, sont aussi ciblés par ces organisations qui se nourrissent du chaos. Donc, dialoguer, oui, mais avec qui? Qui pour dialoguer?
Et est-ce que aussi les responsables qui sont en place dans les pouvoirs centraux des différents pays de la région sont disposés, sont enclins à dialoguer à la Antille? C'est aussi ça la question.
Oui, il faut dialoguer de toute façon pour la raison qui...
Il faut, c'est sûr, mais est-ce qu'on est enclin?
Pour l'instant,
il n'y a aucun signe qui va dans ce sens.
Non. À la fois les partenaires internationaux et même les leaders les États n'ont pas l'air enclins à négocier. Moi, je dirais qu'il faut négocier pour deux raisons. D'abord, il faut négocier avec ses ennemis, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que il faut raisonner aussi en termes de combattants. Il y a tout un tas de gens qui rejoignent ces groupes que l'on qualifie de terroristes pour des raisons autres qu'idéologiques. Tout simplement pour être protégés, pour que leur communauté soit protégée. Si l'État les considère comme des terroristes et on ne négocie pas avec les terroristes, comment vous voulez faire pour convaincre ces jeunes qui ont rejoint ces groupes de revenir dans le giron de l'État et d'être assurés qu'ils ne vont pas être poursuivis, emprisonnés? Donc il y a un enjeu, je dirais même, très technique et pragmatique.
Merci beaucoup à tous nos invités, Alain Antille, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Merci Niégalé Bagayoko. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Et un grand merci à vous, Christophe Châtelot, d'avoir été avec nous ce matin, notre partenaire du monde. Niégalé Bagayoko, vous l'aviez demandé, vous l'entendez?
La Cora, absolument.
Voilà. Merci beaucoup. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.